Non, moi je pense pas que ce soit le quatrième pouvoir. Ça, c'est la tradition journalistique qui présente le quatrième pouvoir comme le pouvoir alternatif aux trois pouvoirs traditionnels définis par Montesquieu, c'est-à-dire au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et le concept de quatrième pouvoir, ça ne s'applique que dans une démocratie, en fait. Hein ? Et pendant très longtemps, il y a eu très peu de démocratie. Alors, au sein d'une démocratie, notamment c'est un concept inventé aux États-Unis, qui est une démocratie depuis fort longtemps, l'idée c'était que même en démocratie, parfois il y a des injustices. C'est-à-dire, par exemple, un tribunal en démocratie, et un bon tribunal, peut condamner un innocent. Même en démocratie, des décisions politiques peuvent être prises démocratiquement, qui peuvent avoir des conséquences très négatives pour des groupes sociaux, quels qu'ils soient. Et donc la presse intervient à ce moment-là comme, si vous voulez, un nouvel acteur de la démocratie pour défendre l'innocent qui a été condamné légitimement par un tribunal qui a commis une erreur judiciaire. Donc c'est ça le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est en quelque sorte le pouvoir qui est un recours pour les citoyens quand ils n'ont pas d'autres recours, mais en démocratie. Parce que le quatrième pouvoir, ça ne s'applique pas quand il n'y a pas de démocratie. Et contre la tyrannie, il n'y a pas de quatrième pouvoir. Parce que l'une des décisions que va prendre une tyrannie, une autocratie, c'est d'interdire la presse libre, bien entendu. Donc par conséquent, parler de quatrième pouvoir, c'est parler d'un contexte très précis, politique d'abord, contexte démocratique, et ensuite parler d'un type de presse qui est une presse libre et dont l'image globalement est une image de presse généreuse au service du citoyen, au service de la société, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les médias fonctionnent globalement comme un quatrième pouvoir pour beaucoup d'aspects. Parfois, ils fonctionnent comme un quatrième pouvoir parce que les démocraties se sont étendues, effectivement, mais très souvent, comme vous le savez, ce sont des démocraties d'apparence, ce sont des démocraties de théâtre, en quelque sorte, hein, c'est un décor, ce sont démocraties Potemkin. Vous savez, comme on disait avant, qu'il y avait des villages Potemkin, vous savez, sous le tsarisme, n'est-ce pas, qui n'avaient que la façade des maisons. Hein, bon. Eh bien, aujourd'hui, moi, je dirais que les médias, à mon sens, constituent le deuxième pouvoir. Il n'y a que deux pouvoirs qui fonctionnent réellement aujourd'hui dans la globalisation réellement existante. Hein, c'est d'une part le pouvoir économique et financier, dont Bernard a exposé comment ça fonctionne et comment ça constitue un petit peu le nerf de la dynamique de la globalisation. Et puis, vous avez à côté, si vous voulez, l'appareil idéologique de la globalisation. Qu'est-ce que c'est l'appareil idéologique de la globalisation ? Ce sont les médias dans l'ensemble. Qui est-ce qui distille, si vous voulez, comme au sein de l'Église, la doctrine ? Qui est-ce qui met dans les têtes les idées auxquelles il faut croire ? Parce qu'il faut croire comme ça, au sens impersonnel, globalement, ce sont les médias. Qui est-ce qui crée l'atmosphère idéologique dans laquelle la réception des idées de la globalisation sont naturalisées ? Les idées deviennent naturelles, il est normal, en quelque sorte. Ce qui est anormal, c'est de ne pas croire ces idées-là. Eh bien, ce sont globalement l'appareil médiatique. Un appareil médiatique, il ne faut pas, lorsqu'on parle de pouvoir de médias, ou de, on laisse entendre que les médias seraient autonomes par rapport, disons, au premier pouvoir. Mais il n'y a pas d'autonomie. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez aux médias réellement influents dans le monde, les agences de presse, les grands groupes médiatiques mondiaux, vous vous rendez compte qu'ils font partie des grands acteurs de la globalisation. La globalisation se caractérise entre autres par le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, les initiatives qui marquent sont prises par des groupes économiques, hein, des firmes, et pas forcément par les États. Et bien parmi ces groupes, il y a des groupes médiatiques qui deviennent de plus en plus puissants. L'alliance Time Warner avec American Online, ça vous donne déjà un groupe d'une puissance mondiale. L'alliance Vivendi Universal, ça vous donne une alliance mondiale. Le groupe Murdoch, c'est une force d'intervention à l'échelle du monde. L'alliance Bertelsmann et Mi vous donne une influence mondiale. Les nouveaux groupes liés à Internet, la nouvelle économie, c'est l'articulation entre les médias nés d'Internet et les technologies nées d'Internet et les financiers, les groupes industriels qui ne sont pas forcément médiatiques. Hein, parce que quand on parle de médias, on croit encore que les médias, c'est les médias. Mais qui domine les médias? C'est aujourd'hui, ce sont les firmes téléphoniques. Ce sont les firmes informatiques. C'est Microsoft qui domine les médias. Ce sont des firmes American Online. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par conséquent, il y a une alliance entre ces groupes-là. Bien entendu, le pouvoir financier est très présent. Les banques, les assurances contrôlent les médias. Donc, finalement, il y a une articulation entre les acteurs de la globalisation économique et les acteurs de la globalisation médiatique. Et c'est donc, si vous voulez, à mon avis, aujourd'hui, il y a une responsabilité médiatique globale. Ça ne veut pas dire que chacun des médias a le même comportement, mais la tendance, c'est que les médias, aujourd'hui, ont un pouvoir plus important que le concept de quatrième pouvoir le laisse entendre. Car aujourd'hui, les médias, dans l'ensemble, sont des alliés de la globalisation et participent de l'aliénation, etc., si vous voulez, dominante. Alors que l'idée de quatrième pouvoir, c'est que ce sont des opposants au pouvoir. C'est-à-dire que quatrième pouvoir, ça signifiait, dans la tradition, si vous voulez, de la réflexion médiatique, ça signifiait contre-pouvoir. Contre-pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas un contre-pouvoir. Aujourd'hui, c'est un des éléments du pouvoir dominant. Là, ce que j'essayais de dire, c'est d'écrire une tendance dominante et une situation où il y a des dominantes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si nous analysons la caractéristique générale du système, eh bien, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, cette caractéristique suppose un certain nombre de failles, suppose l'existence aussi d'autres acteurs, de même que la globalisation, elle est financière, économique, mais il y a les sociétés. Hein, et puis, dans le système médiatique, il y a aussi, disons, des contre-médias, alors qui parfois n'ont pas l'influence qu'ont les grands médias dominants, bien sûr, mais on se rend compte que de la même manière qu'on peut mettre des grains de sable dans les rouages du grand mécanisme de la globalisation économique, on peut mettre des grains de sable dans les mécanismes de la globalisation médiatique. Par exemple, il est quand même assez intéressant d'observer qu'avec très peu de ressources médiatiques, l'idée du Forum social mondial s'est établie très vite, s'est étendue très vite, à travers des réseaux qui ont pu utiliser les réseaux indépendants d'Internet, à travers des médias comme des radios, des télévisions locales ou câblées, des journaux, de la presse écrite, etc., dont bien sûr le monde diplomatique, et que finalement l'idée de la nécessité de l'organisation d'un forum social mondial s'est très vite répandue au sein des ONG, etc., ce qui montre qu'il existe aussi des réseaux médiatiques et une sensibilité à l'égard d'un certain nombre de médias qui traduisent bien le sentiment qui peut exister également dans certaines parties de la société, qui se manifeste aussi par l'existence des ONG, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il y a place aujourd'hui pour des médias différents et des médias qui rencontrent, qui plus est, l'écoute, l'oreille d'un public différent, à plusieurs conditions. Disons, la première condition, c'est que ce sont des médias qui ne peuvent pas se satisfaire simplement de se définir contre. Ce serait trop facile, finalement. Ce sont des médias qui doivent être aussi de véritables modèles de professionnalisme, par ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des médias qui doivent être bien faits, bien réalisés, etc., comme les médias dominants. Troisième condition, ce sont des médias qui doivent être bien articulés à des groupes sociaux précis. C'est-à-dire retrouver précisément le dynamisme que peuvent avoir les ONG dans d'autres aspects, ou aussi ce qu'on appelle la société civile, finalement. Donc, quand ces trois conditions sont réunies, eh bien, nous avons des médias que certains appellent alternatifs, mais qui ont le sérieux, la crédibilité, qui deviennent également des médias de référence. Et finalement, comme un système, comme un moteur à deux temps, le système a besoin, et finit par avoir besoin, de ces médias alternatifs pour que nous-mêmes on ait une idée du fonctionnement général du système médiatique. Et à cet égard, on pourrait alors effectivement reprendre l'idée de quatrième pouvoir appliquée à ça, c'est-à-dire quatrième pouvoir comme des médias qui se définissent comme un contre-pouvoir par rapport au pouvoir général, de cette, ce système que constituent la finance, le commerce et les médias dominants. Il fut un temps où ce n'était pas facile. C'était même assez difficile. Le monde diplomatique avait une position très solitaire. Je pense en particulier tout le long des années 80, au fur et à mesure que l'idéologie néolibérale s'est instaurée petit à petit, depuis la fin des années 70, l'arrivée au pouvoir de Madame Thatcher, puis de Reagan. Petit à petit, on a vu comment ces idées étaient acceptées et le monde diplomatique a maintenu très vite une position critique, disons, mais critique sérieuse, c'est-à-dire pas critique idéologique, mais critique sérieuse, en faisant écrire dans ses colonnes des experts de pratiquement tous les pays, de grands économistes, etc., qui ont essayé d'expliquer très concrètement, très modestement, très humblement, finalement, comment on pouvait avoir une autre lecture sur ce phénomène. Alors cette période, ça a été une période de solitude. Solitude, si vous voulez, dans le champ du débat. Mais malgré tout, pendant toute cette période, notre journal a rencontré de plus en plus de lecteurs. De plus en plus de lecteurs, et le journal s'est développé. Au fur et à mesure qu'on affinait la critique, ensuite de la globalisation, après la chute du mur de Berlin, et après la chute, la disparition de l'Union soviétique, on a essayé d'analyser la nouvelle ère dans laquelle nous étions entrés. Nous avons été sans doute parmi les journaux à l'échelle internationale qui avons produit le plus de réflexions théoriques sur ce moment historique que nous vivions. Nous avons essayé de précisément penser ce que pouvait être une critique de la globalisation. Et petit à petit, cette difficulté, en quelque sorte, qui est toujours réelle, parce qu'intellectuellement, ça continue d'être difficile, mais cette difficulté a été accompagnée non seulement du succès du journal en tant que journal, puisque nous n'avons jamais eu autant de lecteurs que maintenant. Donc, comme entreprise, c'est une entreprise qui se porte bien, mais en plus, nous avons pu multiplier les éditions à l'étranger. Comme vous savez, le monde diplomatique a aujourd'hui une quinzaine d'éditions à l'étranger, plus des éditions sur Internet, donc c'est un journal qui se diffuse à plus d'un million d'exemplaires sur une quinzaine de langues à l'échelle internationale. Alors ça devient donc un média qui pèse dans une certaine mesure, et en particulier en direction d'un certain public. Donc ça a été difficile, ça l'est moins aujourd'hui, mais intellectuellement ça reste toujours difficile, parce que finalement la réflexion est toujours compliquée. Tout à fait, c'est très regrettable. Moi, je sais que certains de mes livres ont été traduits en néerlandais, mais nous regrettons qu'il n'y ait pas de traduction néerlandaise du monde diplomatique, ni dans la partie néerlandophone de la Belgique, ni aux Pays-Bas. Mais des journaux des Pays-Bas, par exemple, nous achètent, et même de Belgique, de temps en temps des articles et reproduisent certains de nos articles. Donc nous avons une certaine présence, mais effectivement c'est une lacune que nous regrettons. En revanche, par exemple, nous avons en langue allemande, alors cette fois-ci, par exemple, 4 éditions en langue allemande. 4. Alors qu'il n'y a que 4 pays de langue allemande que je connaisse. C'est-à-dire, nous avons une édition en Allemagne qui se fait à Berlin, une édition en allemand qui se fait en Autriche, à Vienne, une édition en Suisse alémanique, à Zurich, et une édition au Luxembourg. Donc, par exemple, ça montre bien qu'il y a un intérêt en Europe germanophone, en tout cas pour être présent. Nous avons une édition maintenant en Suède, en suédois. Nous sommes en train en ce moment d'étudier la perspective d'avoir une édition au Danemark, en danois, sans parler des autres éditions de l'Europe du Sud, mais pour parler de l'Europe centrale ou du Nord, n'est-ce pas? Ce qui montre bien qu'il y a une curiosité et un intérêt à l'égard des études que nous publions, et qui montre bien aussi que ces études sont perçues non pas comme idéologiques, mais elles sont perçues, disons, comme sérieuses, simplement, comme des travaux d'experts. Sur le Forum social mondial, Je pense, tout à fait comme Bernard, je pense que le succès de ce forum, c'est qu'il se tienne. C'est-à-dire le succès dans ce forum, dont Bernard a dit à juste titre que c'était le numéro zéro, c'est une espèce d'essai de forum, hein. Un autre forum est possible, on pourrait dire, n'est-ce pas? Et c'est celui de l'an prochain. Il était important dès cette année, surtout après la globalisation vient de connaître au cours de l'année 2000, tout de même, disons, de sérieuses secousses après ce qui a commencé à se passer à Seattle, puis ensuite à Washington, puis ensuite à Prague, puis ensuite à Melbourne, puis ensuite à Okinawa, puis ensuite à Biarritz, etc. Donc, il y a eu une sorte de réveil de la société civile, avec l'embryon d'apparition d'une société civile planétaire, et il était important, pour mille raisons, que cette protestation qui prenait des formes de manifestations de rue débouche sur une autre forme de contestation, non pas la contestation par le biais de l'irritation, mais aussi la contestation par le biais de la réflexion. Et donc le forum devenait nécessaire pour que tous ceux qui, à l'échelle internationale, considèrent qu'on peut corriger cette globalisation, qu'on peut la modifier, et en tout cas qu'on peut manifester les injustices que produit cette globalisation, il était important qu'ils essaient de se rassembler, de se rencontrer, et pour que, dans un premier temps, faire un peu l'état des lieux de la protestation. Quel est l'état des lieux de la protestation? Chacun racontant un peu ce qu'il ressent. Et donc, cela s'est fait. C'est-à-dire ça, le fait que le forum existe est déjà, à mon avis, un premier succès. Il est évident qu'il est insuffisant. Il est insuffisant parce que, d'abord, vous l'avez vous-même souligné, il y a des régions du monde qui sont insuffisamment représentées, où il y a beaucoup de capacité d'apport en termes théoriques, en termes d'expérience concrète. Il est insuffisant aussi parce que il n'y a pas la sérénité nécessaire dans le cadre de ce forum qui en grande partie s'improvise pour apporter des éléments à la construction en quelque sorte d'une théorie critique de la globalisation. Mais on ne peut pas tout demander. Davos existe depuis 38 ans, le forum social commence. Donc par conséquent, voyons un peu et attendons le résultat. Mais c'est un succès déjà par la présence, par le nombre de délégations, par la qualité des intervenants, par la couverture médiatique. Donc il est indiscutable que c'est un succès. C'est pas un succès qui crée de l'insatisfaction, mais il faut être insatisfait pour pouvoir progresser. Je pense que, j'exprime mon opinion personnelle. Je pense qu'un forum comme le Forum social mondial devrait être un lieu où, si vous voulez, les sociétés s'expriment en tant que société civile, c'est-à-dire davantage des ONG, des associations, des syndicats et des intellectuels, des universitaires, des essayistes, etc., des intellectuels. Et je pense que ce serait bien que des hommes politiques viennent. C'est très important qu'ils viennent, mais pour écouter. Je crois que ce serait bien qu'ils viennent comme à une université pour écouter la société mondiale s'exprimer. C'est mon opinion. Et moins pour parler.